SBS Radio.
Les grands titres, d'abord les incendies dans le Victoria avec plusieurs maisons détruites. Le Labour s'engage à demander des comptes aux banques lorsqu'elles traitent avec les agriculteurs s'ils remportent les élections fédérales en mai prochain. Et en tennis, Roger Federer remporte le 100e titre de sa carrière en simple. Plusieurs maisons détruites dans des feux de brousse dans l'est du Victoria, près du parc national Bunyip. Un ordre d'évacuer est en vigueur pour l'Abertouche Nord, alors que plus de 400 pompiers continuent de lutter contre les feux hors de contrôle. Une interdiction totale d'allumer des feux est en vigueur dans le Victoria ce dimanche. Andrew Crisp est le commissaire chargé de la gestion des situations d'urgence.
We have a total fire ban across the whole state today. What that basically means for everyone is no one can afford to become complacent. Even if you're not in an area that's impacted by fire at the moment, you cannot become complacent.
Le chef du Victoria, Daniel Andrews, demande aux gens d'être prudents.
If people across Victoria want to thank and help and be of assistance to the more than 2,000 firefighters that are out there bravely fighting those fires that are going, then the most important thing to do is to listen to warnings. Use common sense. Get your information from multiple sources. Don't put yourself in harm's way and potentially add to the already considerable workload that our firefighters have.
Le chef de l'opposition fédérale, Bill Shorten, dévoile des mesures destinées à aider les agriculteurs et davantage de contrôle des banques avant qu'elles puissent expulser les agriculteurs de leurs propres terres. Le Labour, s'il remporte les prochaines élections fédérales, ferait doubler le plafond d'indemnisation des agriculteurs de 2 millions à 4 millions de dollars. Bill Shorten a déclaré à l'ABC que les mesures garantiraient que les banques agissent conformément aux attentes de la communauté.
Well, the banks are the ones causing the problem, so they should pay. You know, the banks made $30 billion worth of profits last year. They can find that they can shave a tiny bit of their profits and make sure that the farmers get treated properly. Because otherwise what happens is that these farmers and their families, it ends up costing the taxpayer. So we want to put responsibility back where it is. And all we're asking the big banks to do is don't misuse your power. You have a privileged position in Australian society.
Un nouveau sondage Greenpeace suggère que le réchauffement climatique et l'environnement sont des questions clés pour les électeurs avant les prochaines élections fédérales. Le sondage a également montré que plus de la moitié des gens pensaient que le gouvernement libéral ne faisait pas assez pour le climat. Martin Zeven, responsable de la campagne à Greenpeace, pense que le réchauffement de la planète et l'environnement sont des questions essentielles pour les électeurs avant les prochaines élections fédérales.
The Australian public is seeing the impacts of climate change in unprecedented heat, unseasonal floods and fires, and scorching droughts. Any political party who wants to lead us into the future must have a credible plan for tackling these issues.
Les experts réitèrent leurs appels pour que l'intimidation soit reconnue comme un problème majeur de santé publique et que plus soit fait pour aider les jeunes en détresse. L'étude a également révélé que 16% des jeunes consommaient des drogues et de l'alcool pour les aider à faire face à l'intimidation. Ashley De Silva, président de Reach Out, pense que les statistiques sont alarmantes.
Using drugs and alcohol to cope with bullying is concerning. Because it can be a fast track to other problems, whether they be binge drinking, risky behaviours like drink driving, overdose, and even death. Bullying is a serious issue.
Le défilé LGBTQI du Mardi Gras de Sydney a pris fin. Près de 200 chars ont traversé Oxford Street hier soir, célébrant une multitude de cultures, de croyances religieuses avec pour thème, je cite, « sans peur ». Kylie Minogue, la superstar de la pop, a fait une apparition aux côtés des drag queens, des drapeaux arc-en-ciel et des flammes qui ont ébloui la foule d'environ 300 000 personnes. Acte 16 des Gilets jaunes hier samedi à Paris et ailleurs en France. Les autorités font état d'une mobilisation en baisse avec 39 300 manifestants dans toute la France, dont 4 000 à Paris. Les Gilets jaunes, quant à eux, estiment qu'ils étaient 92 000 personnes. Reportage Laura Martel pour Radio France Internationale.
À Paris, la mobilisation s'est déroulée dans le calme, avec toujours les mêmes slogans comme « On lâche rien », « Macron démission » ou « Oui au référendum d'initiative citoyenne ». Sur les Champs-Élysées, les commerces sont restés ouverts et la circulation n'a pas été interrompue, malgré l'utilisation de canons à eau contre des agitateurs arrivés en fin de mobilisation. Plusieurs rassemblements ont également eu lieu en province. Dans des villes comme Lyon, Toulouse, Bordeaux et Alès, la situation s'est tendue en fin d'après-midi avec des jets de projectiles côté manifestants et l'utilisation de gaz lacrymogène et de canons à eau par les forces de l'ordre. À Nantes, en revanche, des heurts ont débuté dès le début de la mobilisation. Selon l'AFP, des bouteilles de verre, des pétards, voire même des bouteilles d'acide ont été lancées vers les forces de l'ordre qui ont fait usage de gaz lacrymogène et de tireurs de balles de défense. 3 ou 4 personnes ont été légèrement blessées selon la préfecture. Certains gilets jaunes parisiens ont reconnu qu'il y avait moins de monde pour cet acte 16 tout en contestant les chiffres officiels. Mais l'important, c'est de maintenir la pression jusqu'à la manifestation du 16 mars où l'on sera tous dans la rue pour marquer les 4 mois du mouvement et la fin du grand débat, ou plutôt de la grande mascarade, a souligné ce groupe de gilets jaunes.
Le président français Emmanuel Macron va s'exprimer sur la question européenne. Il va publier ce mardi 5 mars une tribune dans plusieurs journaux des 28 pays de l'Union européenne. Explication de Valérie Gasse pour RFI.
Parler à tous les Européens, pas seulement aux Français, c'est ainsi qu'Emmanuel Macron a choisi de procéder. À l'heure du Brexit, quand ses adversaires en France, le Rassemblement National, prônent le repli, le président de la République veut montrer en publiant une tribune dans tous les pays de l'Union qu'il reste fidèle à sa vision d'un projet commun européen, son créneau « défendre une Europe progressiste contre les nationalistes ». Des thèmes qu'Emmanuel Macron abordera aussi dimanche soir dans une interview télévisée diffusée en Italie sur la Rai Uno, une séquence en 2 temps donc pour marquer l'entrée dans la campagne des européennes. Cette expression du président sur l'Europe était annoncée, elle avait été repoussée pour cause de grands débats. Emmanuel Macron a attendu d'avoir repris un peu de poil de la bête dans les sondages pour se lancer à l'attaque sur le terrain européen. Reste maintenant à La République En Marche à se trouver une tête de liste. Tous les partis sont organisés sauf le parti présidentiel. Des noms circulent néanmoins, ceux de la ministre de la Santé Agnès Buzyn et des affaires européennes, Nathalie Loiseau. Un casting important, même si celui qui jouera le rôle principal, ce sera évidemment Emmanuel Macron.
Le Brexit, avec le vote des députés britanniques mercredi qui ont dit oui à la nouvelle stratégie de Theresa May, qui pourrait reporter la date de la sortie prévue pour le 29 mars. L'Union européenne serait prête à fournir des garanties supplémentaires au Royaume-Uni. Explication de Quentin Dickinson pour RFI.
Il y a ce qui est négociable et ce qui ne l'est pas. Les 27 sont unis sur le principe de la non-renégociation du traité de défaisance, l'acte de divorce en quelque sorte, mais par la voix de leur négociateur en chef, Michel Barnier, ils se déclarent ouverts à déterminer les paramètres et la procédure de négociation des futures relations économiques entre l'UE et le Royaume-Uni post-Brexit. On attend toujours ici une réaction de Londres, laquelle tarde à venir. De même, M. Barnier, comme les principaux chefs d'État et de gouvernement de l'UE, a réagi à l'hypothèse d'une prolongation de la période de négociation fixée à 2 années par le traité sur l'Union européenne et qui vient à échéance le 29 mars prochain. Pour cela, il faut d'abord que Londres en fasse la demande, ce qui n'est aujourd'hui pas le cas, que les Britanniques en disent l'objet, qu'ils apportent des garanties quant aux chances de succès devant leur Parlement et qu'ils fixent clairement une limite dans le temps. Pour l'heure, on n'en est encore nulle part. Et personne ici ne voit comment quelques semaines supplémentaires suffiraient à régler en particulier la question de la frontière inter-irlandaise, alors qu'on n'y est pas parvenu en plus de 18 mois de pourparlers intensifs. De même, prolonger signifie aussi l'obligation pour les Britanniques d'avoir à organiser des élections européennes en mai, une complication supplémentaire difficilement compréhensible, puisqu'il s'agirait d'élire 73 eurodéputés britanniques qui ne siégeraient finalement que quelques mois.
Quentin Dickinson pour Radio France Internationale.
Et c'est vrai qu'il faut rappeler, Jean-Noël, je fais une petite aparté, mais il y a Europa Voice qui arrive dans le reste du programme d'ici quelques minutes. Restez à l'écoute si vous voulez eh bien un petit peu comprendre un petit peu plus en avant là où on en est exactement en Grande-Bretagne avec Europa Voice et Nathanaël Bloch. La suite du journal, Jean-Noël.
13h10 sur les ondes de Radio SBS. Le sénateur américain Bernie Sanders a lancé sa candidature à la présidence de 2020 en promettant de déclencher ce qu'il appelle une révolution politique. Bernie Sanders, sénateur indépendant du Vermont, est âgé de 77 ans. S'exprimant à Brooklyn, il a qualifié le président américain Donald Trump de président le plus dangereux de l'histoire récente des États-Unis.
And I want to thank all of you. Je veux remercier chacun d'entre vous pour votre participation à une campagne qui va non seulement remporter la nomination démocrate, qui va non seulement battre Donald Trump, qui est le président le plus dangereux de l'histoire américaine moderne, mais avec votre aide, nous allons transformer l'Amérique.
Et puis c'est l'ultime assaut contre Daesh au nord-est de la Syrie, près de l'Irak, et mené par les forces démocratiques syriennes et les milices kurdes. Reportage Sam Boukhelifa pour RFI.
Rien ne semble plus barrer la route aux forces démocratiques syriennes. Jusque-là, impossible pour l'Alliance arabo-kurde de pénétrer dans ce dernier bastion djihadiste. À Barouz, les combattants de l'EI, repliés derrière une muraille de civils, retenaient également en otage des membres des FDS capturés durant les combats. Ces otages sont désormais libérés, les civils évacués, et cela ouvre donc la voie à cet ultime assaut. L'opération a été déclenchée hier soir, vendredi à la tombée de la nuit. Les FDS progressent avec la couverture aérienne de la coalition internationale. Les survols sont permanents. Au sol, entre 1000 et 1500 djihadistes les plus radicaux, les plus déterminés se trouvent à Barouz. Autre difficulté, ce village est un véritable champ de mines, truffé aussi de tranchées et de tunnels. Combien de temps pour cette dernière opération ? Difficile à dire, confie un commandant FDS. La bataille risque de durer encore plusieurs jours, mais il n'y aura qu'une seule issue, la disparition du territoire du califat autoproclamé du groupe État islamique.
En Afrique, en République démocratique du Congo, le nouveau président Félix Tshisekedi annonce une grâce pour les prisonniers politiques.
Je vais œuvrer activement à créer les
conditions. I will actively work to create the conditions for the early return of compatriots who are currently outside the country for political reasons to carry out their activities in accordance with the law and republican institutions.
Un mot de culture, le cinéma africain, le FESPACO avec la cérémonie de clôture hier, The Mercy of the Jungle, un film rwandais de Joël Karekezi, a remporté l'étalon d'or de Yenenga. Olivier Roger est sur place pour Radio France Internationale.
Et c'est un triomphe pour Joël Karekezi. Son deuxième long métrage reçoit non seulement l'étalon d'or de Yenenga, la récompense suprême de cette 26e édition du FESPACO. Le jeune réalisateur rwandais n'a pas caché son émotion à l'annonce de la victoire, levant les bras, remerciant le ciel avant de monter sur scène pour recevoir sa récompense. Et son acteur principal, Mark Zinga, qui est actuellement en Europe, a reçu pour sa part le prix d'interprétation masculine. Et ce n'est pas usurpé au vu de la performance de l'acteur bouleversant en soldat brisé par la guerre dans ce film qui est un huis clos dans la forêt congolaise où deux soldats perdus tentent de survivre. C'est un film antimilitariste qui dénonce à la fois la guerre et les ravages qu'elle provoque sur l'âme humaine. Triomphe donc pour ce film rwandais, alors que le Rwanda était justement l'invité d'honneur du FESPACO. Joël Karekezi a d'ailleurs reçu le prix des mains du président Paul Kagame qui avait fait le déplacement à Ouagadougou. Déception en revanche pour un film qui a pourtant marqué les esprits ici dans la capitale du Burkina Faso, Fatwa du Tunisien Mahmoud Ben Mahmoud, qui ne reçoit que l'étalon de bronze, alors que l'argent revient à l'iconoclaste égyptien Khaled Youssef pour son film Karma, aussi récompensé du meilleur son. Notez enfin que l'Algérienne Yasmine Chouir, dont le film intitulé Jusqu'à la fin des temps avait enchanté une partie du public, reçoit le prix du meilleur premier film ici au FESPACO.
Coup d'œil météo pour ce dimanche. En Australie, Perth maximale de 34 degrés, Adélaïde 33, Melbourne 36, Hobart 29, Canberra 32, Sydney 28, Brisbane 29, Cairns 31, Darwin 34 et à Alice Springs maximale de 40 degrés. Un rappel des grands titres de ce dimanche, les incendies dans le Victoria avec plusieurs maisons détruites. Le Labour s'engage à demander des comptes aux banques lorsqu'elles traitent avec les agriculteurs s'ils remportent les prochaines élections fédérales. Et en tennis, Roger Federer remporte le 100e titre de sa carrière en simple. Fin du journal et merci de rester avec nous.
En français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench
sbs.com.au.